Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles. Nous allons continuer l'étude que nous avons commencée la semaine dernière, donc qui vient de 2 Chroniques chapitre 29. 2 Chroniques chapitre 29, et Ézéchias est devenu roi. Le peuple d'Israël, qui est le peuple de Dieu, qui était et qui avait connu Dieu, c'était tellement écarté de Dieu et au point que même le temple de Salomon, avec toute sa gloire le temple qui est là, positionné en plein centre-ville, on ne pouvait pas l'éviter, eh bien, il était fermé. Et le peuple vivait aux alentours, alors qu'il y avait ce rappel, ce temple est là, mais tout était fermé, tout était emmuré. Et Ézéchias qui veut ramener ce peuple, ramener donc d'où on appelle une restauration spirituelle, un peuple qui n'adorait plus Dieu et qui maintenant revient vers son Dieu. Hein, donc la semaine dernière, nous avons vu comment Ézéchias, à peine devenu roi, le premier mois de son règne, la première chose par laquelle il commence, c'est de déjà ouvrir les portes du temple. Et là, les Lévites se sanctifient, se purifient, et ensuite, ils vont faire le ménage dans le temple. Ils vont, parce que le temple avait servi à différentes époques, sous différents rois, pour l'adoration de d'autres divinités, d'autres idoles avaient été ajoutées au temple, et il fallait nettoyer tout cela. Et donc, ils l'ont nettoyé en une semaine. Et après la deuxième semaine, ils ont utilisé cette deuxième semaine pour purifier le temple. Donc, consacré à nouveau à Dieu. Et donc, quand nous arrivons au verset 20, donc là, c'est 15 jours plus tard. Hein, et tout est prêt et tout est en place pour pouvoir commencer l'adoration de Dieu. Donc, et c'est pour cela que nous avons intitulé cette étude « La recette pour une restauration spirituelle, une restauration totale hein, ». C'est parce que avant la fin du chapitre 29, eh bien, ce peuple sera en train de réellement adorer Dieu. Hein. Mais il y a toute une démarche. Hein. C'est pas parce que on se présente à Dieu, c'est pas parce que on a l'intention de l'adorer que tout d'un coup tout est bon. Hein. Et certains pensent que puis Dieu il est quand même difficile. Au moins je fais un effort pour lui et il accepte pas. Oui, mais on s'approche pas de Dieu n'importe comment. Je vous rappelle Caïn. Vous rappelez Caïn, Caïn et Abel, les deux ont eu la pensée d'adorer Dieu. Et si vous vous souvenez bien, eh bien Dieu a accepté celui d'Abel, mais il a refusé celui de Caïn. Pourtant, les deux ont eu le même geste, c'est de bâtir un autel et d'offrir quelque chose à Dieu. Et on aurait pu dire, mais Dieu, il est un peu dur quand même, hein, parce que quand même, Caïn, il a offert quelque chose. Il était agriculteur, il a offert un peu de son produit. Et Abel, ben, lui, il était berger, et puis il a offert de son produit. Et d'abord, faisons attention de ne pas nous mettre en position de juge de Dieu. Hein. C'est grave, c'est très grave. C'est un grand risque qu'on pourrait essayer d'assumer cette position où on se placerait en juge de Dieu. Mais deuxièmement, lorsqu'on regarde de plus près, eh bien, Caïn, il a dit, moi, voilà, c'est moi qui décide comment j'adore Dieu et je lui apporte ce que je veux et il n'a qu'à l'accepter. Tandis que et on pourrait dire, mais il a apporté ce qu'il avait. Et Abel, ben, il était berger, donc c'est pour ça qu'il a apporté un agneau. Non, non. Si vous lisez dans l'Épître aux Hébreux, et au chapitre 3, eh bien, il nous dit que c'est par la foi qu'Abel a offert son sacrifice. Il n'est pas dit que Caïn a offert par la foi. L'élément manquant était la foi. Ce n'est pas ce qu'on pouvait apporter, c'était le fait que c'est par la foi. Et par la foi, Abel a présenté un holocauste sanglant. Et donc, la première chose qu'il faut remarquer, qu'on ne peut pas s'approcher de Dieu sans la foi, sans cette confiance en sa parole, cette confiance en son œuvre et ce qu'il a fait pour nous. Donc ce n'est pas le fait, il y a des milliers de gens de partout dans le monde qui se présentent devant des lieux sacrés et qui certainement, pour la plupart, sincèrement, souhaitent adorer Dieu. Mais la question c'est toujours par la foi. Et assurons-nous que aussi nous, eh bien, lorsque nous nous présentons à Dieu et dans nos églises évangéliques, même si elles sont dénudées de toutes sortes de choses, hein, c'est des salles très simples, mais ce qui importe, c'est de venir par la foi, venir à Dieu par la foi, et pour l'adorer. Donc ce n'est pas le fait de se présenter, c'est le fait de dire des belles choses. Tout cela est inutile si la foi n'est pas ce qui nous anime. Et donc, aussi je veux rappeler que Dieu a toujours voulu habiter parmi les hommes. Dieu a créé l'homme à son image. Il nous dit que le soir, Dieu venait et s'entretenait avec l'homme. C'était ce que Dieu avait voulu, c'était ce qui était normal, ce que Dieu avait prévu. Et même le jour où Adam et Ève ont péché, et ce n'est pas parce que Dieu n'était pas au courant, mais il s'est présenté quand même ce soir-là. Et Adam et Ève n'étaient pas au rendez-vous. Et il dit, Adam, où es-tu ? Pas comme s'il ne savait pas, mais comme pour dire, mais normalement, on a un rendez-vous. On doit se rencontrer, mais Adam, sous la culpabilité de son péché et de sa désobéissance, eh bien, il n'était pas au rendez-vous. Et combien de personnes encore aujourd'hui ne sont pas au rendez-vous de Dieu, prêts à le rencontrer ? Pourquoi ? Parce que le problème du péché n'est pas réglé. Et ils essayent de se couvrir et de s'habiller tant bien que mal. Et Adam a essayé les feuilles de figuier. Ici, vous êtes dans un pays où vous savez ce que c'est que la feuille de figuier. Et vous savez que ça ne convient pas du tout à un habit. Et là, mais Dieu avait dit aux enfants d'Israël, en Exode chapitre 25 et verset 8, pour ceux qui prennent des notes, Dieu avait dit, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. C'est sûr, il veut être là. Il leur a même dit, il a montré un modèle à Moïse pour lui dire exactement ce qu'il voulait et comment ça devait être. Mais il a dit, c'est vous qui faites le sanctuaire, c'est vous qui allez le construire. C'est vous qui allez l'assembler. Et quand vous l'aurez assemblé, lorsque tout sera en place comme je voudrais, j'habiterai au milieu de vous. C'est le principe depuis toujours. Et là, Ézéchias a compris, il a dit, si on veut que Dieu soit parmi nous, eh bien il faut purifier le sanctuaire. Il faut le nettoyer, il faut le préparer, tout mettre en place, tel qu'il l'a voulu, tel qu'il l'avait enseigné, pour qu'il puisse être parmi nous. D'où ce que nous avons vu la semaine dernière, déjà le chapitre 29, et tout de suite, au verset 3, il nous dit qu'il a ouvert les portes déjà, il a commencé à nettoyer, il commence à purifier, les lampes étaient éteintes, le feu sur l'autel était éteint, le pain, la table des pains des propositions, il n'y avait pas de pain dessus, l'autel des parfums, il n'y avait pas de parfum, tout a été arrêté, il n'y avait plus rien. Et ça, c'était quelque chose qui devait être mis en place. pour qu'il y ait adoration, pour que le Seigneur vienne habiter, pas seulement être présent, mais habiter, être à l'aise, et là où il est en communion avec les siens. Et aujourd'hui, si nous voulons chercher le Seigneur, et si sincèrement nous cherchons le Seigneur, eh bien il y a un lieu de rendez-vous où on peut rencontrer le Seigneur. Peu importe notre état, peu importe le péché que nous avons, peu importe notre passé, peu importe le fait que peut-être nous avons cru, mais on s'est écarté du Seigneur et on a envie de revenir. Eh bien, il y a un endroit pour revenir. Tout comme vous voyez dans la vie d'Abraham, chaque fois qu'il s'écartait de Dieu et qu'il se comportait mal, il revenait au dernier autel, le dernier endroit où il avait parlé avec Dieu. Eh bien, pour nous, le dernier endroit où Dieu a vraiment parlé avec l'homme, c'est sur la croix du calvaire. C'est sur le mont de Golgotha. C'est là qu'il faut revenir. Oh, je ne dis pas que vous devez prendre l'avion et puis aller à Jérusalem, essayer de trouver cet endroit qui s'appelle le crâne et puis vous présenter dans cette église qui est construite sur cet endroit-là. Non, non, mais c'est symboliquement. C'est venir là, devant le Seigneur. Dieu est un Dieu spirituel, il n'a pas besoin que ce soit une croix de bois. Mais à partir de moi, dans mon esprit, que je vois cette croix sur laquelle Christ a été crucifié, et que je me rends compte que ça, c'est le point où Dieu veut rencontrer l'homme pécheur. Parce que là, à la croix, il y a tout pour le pardonner, pour le purifier, et il y a tout pour pouvoir le recevoir. Et donc le point de rendez-vous aujourd'hui, c'est justement à la croix de Golgotha. Et Jacques, l'épître de Jacques nous dit, au chapitre 4, verset 8, il nous dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Faites un pas vers lui et il fera tout ce qui est nécessaire vers vous. » Il dit, et je lis tout le verset, parce que c'est important, et ça fait beau de dire « Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. » Comme si c'est un peu nous qui avons la télécommande. Nous, on fait un geste, et puis lui est obligé de faire un geste. Mais c'est le verset continue. « Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » C'est pour ça que c'est à la croix. C'est pas seulement je fais un geste vers Dieu, non, je le retrouve à la croix parce que c'est là où je peux trouver la purification de mes péchés, c'est là où il peut pardonner mon péché et c'est là où il peut me mettre en état où nous pouvons retrouver cette communion, retrouver cette restauration. Et donc ici, dans 2 Chroniques chapitre 29, alors je vous ai dit que au verset 19, on arrive au verset 19, tout est en place, tout est propre, tout est nettoyé. Et alors, verset 20, je lis avec vous. Alors, vous allez voir, cette première partie, c'est le sacrifice d'expiation. Donc, le sacrifice d'expiation, et si vous êtes connaissez bien le livre de Lévitique, vous allez voir que le sacrifice d'expiation, c'est pour le péché. C'est pour obtenir le pardon des péchés. Alors, je lis à partir du verset 20 jusqu'au verset 24. Il dit, le roi Ézéchias se leva de bon matin, assembla les chefs de la ville et monta à la maison de l'Éternel. Ils offrirent 7 taureaux, 7 béliers, 7 agneaux, 7 boucs en sacrifice d'expiation pour le royaume, pour le sanctuaire, pour Juda. Le roi ordonna aux sacrificateurs, fils d'Aaron, de les offrir sur l'autel de l'Éternel. Et les sacrificateurs égorgèrent les bœufs et reçurent le sang qu'ils répandirent sur l'autel. Ils égorgèrent les béliers, ils répandirent le sang sur l'autel. Ils égorgèrent les agneaux, ils répandirent le sang sur l'autel. On amena ensuite les boucs expiatoires devant le roi et devant l'assemblée, qui posèrent leurs mains sur eux, et ce geste de poser la main sur la tête du bouc, c'est une manière de déposer sur lui tout le péché, et après, il devient la bête expiatoire. Et donc, de la même manière, c'est ce geste que, par la foi, chacun de nous, lorsque nous venons à Christ pour la première fois, et dans un sens, je dépose tout mon péché sur lui, Et c'est lui qui porte. Et c'est ce qu'on a lisait dans Ésaïe 53 tout à l'heure. Il a porté nos péchés. Il a porté nos souffrances. Il s'est chargé de tout cela. C'est ce même geste-là. Donc, ils posèrent la main sur ces animaux. Verset 24. Les sacrificateurs les égorgèrent. Ils répandirent leur sang au pied de l'autel en expiation pour le péché de tout Israël. Car c'était pour tout Israël que le roi avait ordonné l'holocauste et le sacrifice d'expiation. Donc, à partir du verset 29, je vous dis, tout est propre, tout est consacré. Et alors là, on commence. Et la première chose, c'est on règle le problème du péché. Toujours, quand on revient à Dieu, on ne fait pas valoir notre fidélité, on ne fait pas valoir le fait que nous sommes meilleurs que d'autres. Hein, il n'y a que dans la prière du pharisien et du publicain. Il disait, mais moi, je ne suis pas comme les autres. Moi, je jeûne, moi, je prie, moi, je fais. Je ne suis pas comme ces autres-là. Cette attitude-là, ça ne va nulle part. Hein. Dieu n'entend pas. Là, tout d'un coup, il devient sourd. Mais on commence toujours par la confession des péchés et par le sacrifice d'expiation. Et donc la question pour chacun d'entre nous, c'est qui est mon sacrifice expiatoire pour mon péché? Alors si je pense que ce sont mes bonnes œuvres qui vont pouvoir obtenir le pardon de mes péchés, eh bien j'ai une triste nouvelle pour vous, c'est que ça ne suffira pas. Si c'est votre baptême, eh bien, la Bible dit que ça ne suffira pas. Si c'est votre certains autres sacrements sur lesquels vous comptez, la Bible dit n'en parle pas. Elle nous parle que d'un seul sacrifice, c'est le sacrifice de Christ. Et il n'y a pas d'autre. Et c'est la seule victime expiatoire acceptable par Dieu. Il est le seul qui est monté dans les lieux célestes et qui a présenté son sang au Père pour obtenir notre pardon. Personne d'autre. Et donc, n'essayons pas de substituer par autre chose. C'est un grand risque, avec le risque de ne rien obtenir. Donc, il commence par là. Ézéchias, sans perdre de temps, et il emmène les responsables, et c'est le sacrifice. Et vous avez remarqué que c'est le sacrifice d'expiation pour le royaume, pour le sanctuaire, pour Juda, et puis au verset 24, c'est pour tout le peuple d'Israël. Et quand il a dit pour tout le peuple d'Israël, Ézéchias, et on le verra dans le chapitre suivant, car en fait, il pensait pas seulement à Juda et son royaume, mais il pensait même au peuple d'Israël, l'autre royaume, parce que dans le chapitre suivant, il va les inviter à venir adorer Dieu dans ce temple. Donc vraiment, pour lui, c'est ce sacrifice, c'est pour tous. Et l'Évangile nous dit que Jésus-Christ est ce sacrifice pour tous les peuples. Tous viennent de la même manière, tous viennent au même sacrifice, et le sacrifice de Christ est suffisant pour tous. Et il n'y a plus de distinction entre juifs et grecs, entre hommes et femmes, entre serviteurs et maîtres, entre n'importe. Tous, nous sommes pécheurs devant Dieu, et nous n'avons rien à faire valoir devant lui. Et donc, il commence justement par ce sacrifice expiatoire pour le péché. Vous remarquez ensuite, si nous continuons, donc les versets 25 à 30, il y a une deuxième étape, et c'est là l'Holocauste. D'abord, c'était le sacrifice expiatoire, et maintenant, il va passer à l'Holocauste. Donc, je commence à lire au verset 25. Il dit, « Il fit placer les Lévites dans la maison de l'Éternel avec des cymbales, des luttes, des harpes, selon l'ordre de David, de Gath et le voyant du roi, et de Nathan le prophète. Car c'était un ordre de l'Éternel transmis par ses prophètes. » Donc, tout de suite, je comprends que Ézéchias avait fait le nécessaire pour lire ce qui avait été écrit, ce qui avait été ordonné, pour faire les choses correctement. Et vous voyez aussi sa confiance en Dieu, sa confiance dans le sacrifice d'expiation du péché, parce que lui, tout de suite, il dit aux Lévites, il dit, bon, allez chercher les instruments de musique, parce qu'on va se réjouir. Et on va se réjouir, pourquoi ? Parce que notre péché est expié. Donc, il croit à cette expiation du péché, il croit à ce pardon immédiat. Et donc, il dit à tous ces gens, comme David l'avait établi, il dit, vous vous préparez avec les instruments parce que là, bientôt, on va se réjouir. Parce que le péché est expié et maintenant, on peut passer à l'étape suivante. Et donc, verset 26, les Lévites prirent place avec les instruments de David et les sacrificateurs avec les trompettes. Verset 27, Ézéchias ordonna d'offrir l'holocauste sur l'autel. Donc l'holocauste, pour comprendre la terminologie de la Bible, donc le sacrifice d'expiation, il y avait toute une cérémonie pour cela. Et l'holocauste, c'était le symbole de ce moment où on offre un sacrifice, mais on est en communion avec Dieu. On s'assoit, on se réjouit. Dans le sacrifice d'expiation, ils ne mangeaient pas de la chair. Dans l'Holocauste, la chair était cuite. Après, on la mangeait ensemble, cette communion ensemble, dans la présence de Dieu. Hein? Donc, c'est ça le sens. Donc, on peut avoir cette communion avec Dieu que lorsque le péché est expié. C'est toujours quelque chose qui suivait le sacrifice d'expiation en paiement pour le péché. Donc, au verset 27, Ézéchias ordonna d'offrir l'holocauste sur l'autel, et au moment où commença l'holocauste, commença aussi le chant à l'Éternel, au son de la trompette et avec l'accompagnement des instruments de David, roi d'Israël. Toute l'assemblée, et remarquez cela, et toute l'assemblée se mit à danser. Non, il nous dit toute l'assemblée se prosterna et chanta le cantique. Vous savez, de nos jours, on a des drôles d'idées parfois. Et on fait un peu ce qu'on a envie et ce que le temps nous impose. Mais ces hommes, dès qu'on commence à offrir l'holocauste, hein, et donc là, tout de suite, eh bien, il dit, comment les instruments se sont mis à jouer. Et le peuple, la première chose qu'ils font, c'est de se prosterner. L'adoration, le recueillement. Et ensuite, ils ont chanté le cantique. Le cantique, au premier abord, on dit, mais c'est quoi ce cantique? Dans 1 Chronique 16, ils avaient instauré un cantique, David avait donné ce cantique, et je ne vais pas prendre le temps de le lire, mais notez cela, 1 Chronique, chapitre 16, verset 8 jusqu'à 35, c'est le cantique qu'on devait chanter à ce moment-là. Et vous remarquerez, en lisant ce cantique, il est très beau. Mais il fait appel à Dieu, il parle de ce que Dieu a fait pour eux tous et pour toutes les nations, pas seulement pour Israël. Et puis ça se termine dans la joie, les cris de joie. Mais c'est ce cantique-là, parce que Ézéchias s'était renseigné et il savait quel est le cantique qu'on chantait à un certain moment. Et c'est le cantique qui adore l'œuvre de Dieu. On ne commence pas à adorer Dieu avec nos sentiments. On commence à adorer Dieu pour son œuvre et ce qu'il a fait pour nous. On ne commence pas, ce n'est pas moi le centre de l'adoration, c'est Dieu le centre de l'adoration. Je commence par ce qu'il a fait, ce qu'il a fait pour tous et ce qu'il a fait pour chacun. Et c'est ça l'adoration. Et ce n'est pas par cela qu'on commence. Des fois, on a l'impression que certains cultes, les gens, en fait, ils sont en train de se faire plaisir. Comme on se fait plaisir à un mariage ou comme on se fait plaisir à une autre fête. Et ça, c'est autre chose. Et c'est tout à fait... c'est très bien. Mais quand on est venu pour adorer Dieu, c'est Dieu qui est l'objet de toutes nos pensées, de tout ce qu'on a fait, son œuvre et surtout la personne de Jésus-Christ. Si vous êtes dans une église où on ne parle plus de l'œuvre de Christ sur la croix, on ne parle plus de Christ, eh bien quittez. Ce n'est pas un lieu où on adore Dieu. Le bâtiment peut ressembler à une église, mais si ce n'est pas Christ qui est le centre, si ce n'est pas Christ qui est l'objet de toute la pensée, l'adoration, tout ça, eh bien ce n'est plus un lieu d'adoration. Et donc nous avons ce cantique en particulier. Et ce que vous verrez dans l'Apocalypse, lorsqu'il nous décrit le ciel, il nous parle de ce rouleau qui est ouvert, et seul Christ peut l'ouvrir parce qu'il est mort, c'est l'agneau qui a été immolé, et dès qu'il l'ouvre, eh bien tout d'un coup il y a un chant nouveau, le chant des rachetés, et qui chante la louange de celui qui les a rachetés. Et donc, ça va être comme ça dans la gloire. On commence maintenant. Si nous croyons réellement à ce jour où nous serons dans la présence de Dieu, eh bien, on commence maintenant à adorer le Seigneur et à chanter ce cantique, le cantique qui honore celui qui a donné sa vie pour nous. Et donc, c'est tout à fait normal. Leur premier sentiment, eh bien, c'était de se prosterner. Cet acte de se prosterner. Et ensuite, le chant a commencé. Et donc, je continue à lire verset 29. Et quand on eut achevé d'offrir l'holocauste, le roi et tous ceux qui étaient là avec lui fléchirent le genou et se prosternèrent. Puis le roi Ézéchias et les chefs dirent aux Lévites de célébrer l'Éternel avec les paroles de David et du prophète Asaph. Donc tous Asaph, c'est toutes ces compositions qu'on trouve dans les psaumes. Et ils célébrèrent avec des transports de joie et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Ensuite, je continue, donc on a commencé par le sacrifice d'expiation des péchés, ensuite l'Holocauste qui représente ce temps où on adore le Seigneur, on est dans sa présence et on est épris par son œuvre et sa personne et ce qu'il a fait pour nous. Et ensuite, à partir du verset 31 jusqu'à la fin du chapitre, eh bien, nous avons la partie action de grâce. Et ça, c'est le remerciement, c'est la troisième étape. Et lisons ensemble, verset 31. Ézéchias prit alors la parole et dit, « Maintenant que vous êtes consacrés à l'Éternel, approchez-vous, amenez des victimes, offrez des sacrifices d'action de grâce à la maison de l'Éternel. » Et l'assemblée, donc le peuple, amena des victimes et offrit des sacrifices, des actions de grâce, et tous ceux dont le cœur était bien disposé offrirent des holocaustes. Le nombre des holocaustes offerts par l'assemblée fut de 70 bœufs, 100 béliers, 200 agneaux. Toutes ces victimes furent immolées en holocauste à l'Éternel, et l'on consacra encore 600 bœufs et 3000 brebis. Mais les sacrificateurs étaient en petit nombre et ils ne purent dépouiller tous ces holocaustes. Et leurs frères, les Lévites, les aidèrent jusqu'à ce que l'ouvrage soit fini, jusqu'à ce que les autres sacrificateurs se soient sanctifiés, car les Lévites avaient eu plus à cœur de se sanctifier que les sacrificateurs. Il y avait d'ailleurs beaucoup d'holocaustes, avec les graisses des sacrifices d'action de grâce et avec les libations des holocaustes. Ainsi fut rétabli le service de la maison d'Éternel. C'est que lorsqu'on arrive à la fin de cette troisième étape, qu'il dit le service est rétabli. Parce que là, c'est complet. Il y a tout ce qui est... Donc, comprenez ? Donc, confession des péchés. Ensuite, c'est ce temps de méditation sur l'œuvre de Christ et ce qu'il a fait pour nous. Et ensuite, l'action de grâce, où on le remercie pour tout ce qu'il a pourvu. Et ça, aujourd'hui, nous n'avons plus besoin des sacrifices et d'offrir des animaux, parce que Christ suffit. Mais ces trois étapes restent toujours. Et lorsque vous regardez dans les épîtres, et on reviendra plus tard, mais alors, dans les épîtres, on voit, eh bien, toutes ces étapes sont là. Confession des péchés, adoration, action de grâce, tout, c'est des aspects de la prière, de la vie de prière. Et c'est nécessaire, et ce n'est que lorsque j'aurai accompli tout cela, et bien que là je peux dire, maintenant je suis en train d'adorer Dieu correctement, pleinement. Là j'ai tout fait. Il dit, c'est seulement à ce moment-là que fut rétabli le service dans la maison de l'Éternel. Et donc là, il y a vraiment culte. Hein? Et donc après, je lis le verset 36. Ézéchias et tout le peuple se réjouirent de ce que Dieu avait bien disposé le peuple, car la chose se fit subitement. Ézéchias dit, ouais, je sais que j'ai forcé les choses, ça a été vite. Mais il dit, mais ce que je remarque, c'est que Dieu a travaillé dans les cœurs, parce qu'il le voulait. Et il a disposé les cœurs pour que cela puisse se faire. Et ça s'est fait dans le très peu de temps. Vous savez, Dieu, dès qu'on commence à se tourner vers lui et on veut s'approcher de lui, lui fera le nécessaire pour tout mettre en place, pour rendre ce moment agréable et que ce soit sa gloire et que ça se termine avec une joie réelle, pas une joie que nous avons créée par le style de musique, mais une joie débordante qui vient du fond du cœur. Parce que nous comprenons tout ce que Dieu a fait pour nous. Et c'est là où il y a une restauration. Et donc, et dimanche prochain, par la grâce de Dieu, eh bien nous verrons que dans le chapitre 30, à ce moment-là, le peuple d'Israël pourra célébrer la Pâque. Et ils célébreront de manière comme ça n'a pas été célébré depuis des années. Et donc, c'est là... La restauration totale, ce sont les étapes et finalement chacun de nous dans notre première venue à Dieu ou dans notre retour à Dieu, ce sont les mêmes étapes. Mais ce que nous remarquons, c'est que Ézéchias le souligne bien, c'est que Dieu n'est pas là pour retarder les choses et pour dire bah, écoute, bon, faut que je voie ça. Non. Il le fait et la restauration est immédiate, le pardon est immédiat, la joie vient de suite et le cœur est disposé par Dieu. Très belle chose. Et n'oublions pas que ce sont des vérités intemporelles, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, ce sont les mêmes principes parce que nous avons affaire avec le même Dieu. Et le péché est sacrifié, expié de la même manière. Et l'adoration de Dieu se fait de la même manière. Et que le Seigneur nous aide à comprendre cela. Maintenant, c'est à chacun de nous d'évaluer, nous dire, mais bon, est-ce que nous avons un peu eu l'attitude de Caïn, de faire les choses un peu n'importe comment, comme ça nous plaît, ce qui me fait plaisir, ou est-ce que nous avons fait comme Ézéchias, qui s'est renseigné pour savoir ce que Dieu veut, et ce que Dieu désire de nous, et puis de plaire à Dieu. Et ça, c'est tout autre chose. Et le résultat n'est pas le même non plus. Nous allons prendre quelques moments de silence pour que chacun déjà puisse prier dans son cœur devant le Seigneur, et ensuite je vais conclure.